Il est 10h10 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous comme tous les matins. RFI vous donne la parole dans un instant. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe. Hein, s'il vous manque des clés, des repères pour comprendre, pour mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans les différents journaux, eh bien, appelez-nous, rejoignez-nous et surtout n'attendez pas le début de cette émission. On a besoin de préparer cette première partie puisque nous avons besoin évidemment de contacter nos correspondants à travers le monde, nos envoyés spéciaux, nos spécialistes ici au sein de la rédaction. Vos questions donc pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, n'oubliez pas les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, comme tous les jours, nous lancerons un débat et nous parlerons tout à l'heure de l'épidémie d'Ebola avec cette question: quelle stratégie faut-il mettre en place? D'autant que le bilan ne cesse de s'alourdir. Près de 2300 personnes sont mortes en Afrique de l'Ouest. L'OMS signale d'ailleurs que la progression des cas continue de s'accélérer en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. En tout cas, malgré l'ampleur de l'épidémie, l'Union africaine était jusqu'à présent aux abonnés absents, et c'est peu de le dire, puisqu'en début de semaine, l'Union africaine a tenu sa toute première réunion d'urgence, et l'organisation a appelé les États membres à lever les restrictions de voyage. On peut s'interroger et se demander si c'est suffisant. Alors, que vous inspire la gestion de cette crise sanitaire? La mobilisation est-elle à la hauteur? Vous êtes nombreux à nous écoutez, en Afrique de l'Ouest, appelez-nous, vos témoignages nous intéressent. Dites-nous quels sont les moyens qui sont mis en place dans votre pays. Avez-vous aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'impression d'être en sécurité ou pas? On a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70. Et vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission. N'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Des questions et des questions concernant l'Écosse. L'Écosse et ce fameux référendum sur l'indépendance. Vladimir, bonjour.
Bonjour, Anne.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Il y a un petit décalage, mais c'est normal. Vous nous appelez de Kribi, dans le sud du Cameroun. Kribi, c'est une station balnéaire hein, camerounaise. Et vous avez donc plusieurs questions hein, sur ce référendum.
Exactement, Anne. Monsieur Juan, depuis plusieurs jours, on entend parler du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et du coup, celui-ci semble proche et le 8 semble l'emporter dans les sondages. Je voudrais en fait savoir pourquoi l'Écosse veut se séparer des Royaumes-Unis et devenir indépendante. Et ensuite, je voudrais savoir si une Écosse indépendante peut-elle intégrer l'Union européenne.
Ah, bonne question. Alors, on va déjà avec Béatrice Léveillé qui vient de me rejoindre et qui suit ce dossier à la rédaction d'RFI. Bonjour Béatrice.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On va déjà rectifier un petit commentaire de Vladimir. Il nous dit le oui semble être en tête. Alors, c'était peut-être le cas dimanche, mais ce n'est plus le cas ce matin.
Oui, c'est très compliqué, évidemment, c'est très serré. Mais le oui a fait une remontée absolument spectaculaire. C'est-à-dire que les indépendantistes ont eu un gain de popularité formidable pendant les deux derniers mois de la campagne. Et c'est difficile toujours d'inverser une tendance. Malgré tout, il y a beaucoup d'hésitations. Les gens, d'ailleurs, sur place, hésitent à s'exprimer. Ils ont eu quelques difficultés.
Beaucoup d'indécis. Encore à l'heure actuelle?
Beaucoup d'indécis, peut-être aussi un vote caché, des gens qui disent qu'ils vont voter indépendantiste et qui vont pas voter indépendantiste, qui vont voter non alors disent qu'ils vont voter oui, des gens qui peuvent changer d'avis, effectivement.
Donc les instituts de sondage s'arrachent les cheveux. En tout cas, ce matin, une enquête donne le non gagnant avec 6 points d'avance, mais évidemment, d'ici au 18 septembre, tout peut changer. Pourquoi les Écossais rêvent-ils d'indépendance, Béatrice?
Alors, il y a plusieurs raisons historiques, politiques, culturelles, mais je voudrais tout d'abord rappeler qu'effectivement, l'Écosse est une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Alors, les 4 nations, ce sont donc l'Écosse, 5 millions d'habitants, l'Angleterre, 51 millions d'habitants, donc c'est beaucoup plus important. Il reste le Pays de Galles, 3 millions d'habitants, et l'Irlande du Nord, qui comprend 1 800 000 habitants. Voilà.
D'accord.
Donc, le départ de l'Écosse, c'est 10%, moins de 10% de la population, mais c'est un tiers du territoire non pas du Royaume-Uni, mais de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, c'est l'île. Donc un tiers de la Grande-Bretagne, à ce moment-là, se séparait du reste de la Grande-Bretagne et du reste du Royaume-Uni.
D'accord, mais pour quelles raisons ? Qu'attendent-ils les Écossais en votant éventuellement pour l'indépendance ?
Alors il y a des raisons historiques, bien sûr. Hein. Les Anglais et les Écossais se sont battus pendant des siècles. D'ailleurs, les Français étaient alliés des Écossais contre les Anglais au Moyen-Âge. Et puis en 1707, un roi écossais, Jacques VI, est monté sur le trône d'Angleterre. Et à cette occasion, les parlements écossais et britanniques ont fusionné pour faire un seul parlement à Westminster. Donc en fait, après il y a eu toutes sortes de rébellions en Écosse, mais elles ont toutes été écrasées.
Ouais, et c'est ça qui motive principalement les Écossais ?
Les Écossais ont une culture très très différente aussi. Vous savez que les Écossais portent des kilts,
oui,
des jupes,
tout à fait. Hein,
voilà. Mmh. Alors ils mangent du haggis, de la panse de brebis farcie, et ils jouent de la cornemuse. Ouais. Voilà, ce sont en fait des populations d'origine celte, bretonne, irlandaise et viking
mais
et norvégienne.
Mais au-delà de l'aspect culturel qui est évidemment important, j'imagine qu'il y a aussi des raisons peut-être économiques, des raisons politiques.
Bien sûr, mais les raisons culturelles sont très importantes parce que l'origine de ces populations n'est pas la même. Les Anglais sont des anglo-saxons. Mmh. Ce sont des peuplades germaniques, en fait. Donc à l'origine, vraiment, ce sont des peuples très différents et qui se sont combattus très longtemps. Mais effectivement, sur le plan politique, et la motivation des indépendantistes est très politique, ils mettent en avant qu'ils sont dirigé depuis plus de 30 ans maintenant par des conservateurs à Westminster, alors que l'Écosse vote systématiquement travailliste. Et ils appellent à voter contre le libéralisme, parce que quand les travaillistes sont arrivés au pouvoir, les travaillistes c'était des Écossais, c'était Tony Blair et Gordon Brown, tous les deux Écossais, tous les deux premiers ministres, et bien ces travaillistes ont évidemment mené une politique très très libérale qui ne convient pas du tout aux Écossais. Il y a aussi le problème que les Anglais sont très eurosceptiques, alors que les Écossais sont très pro-européens.
Alors justement, si le oui l'emporte, Béatrice, est-ce que l'Écosse pourra réintégrer l'Union européenne ?
Alors il y a deux théories.
Déjà, est-ce qu'elle pourra rester dans l'Europe ? Ou automatiquement, elle sera exclue ?
Il y a deux théories. Hein. L'Europe, elle est toujours très pragmatique. On a donné l'euro aux Kosovars. Le Kosovo a une monnaie qui est l'euro. Donc vous voyez, on est capable de faire des grands écarts. Mais pour vous dire, la réalité, c'est que la plupart des spécialistes disent qu'effectivement, on ne peut pas retirer la citoyenneté européenne à des Européens. Par contre, à Bruxelles, José Manuel Barroso disait que il faudrait refaire tout le processus d'adhésion, qui est très long et assez
Barroso
incertain.
Barroso n'est plus aux affaires. Voilà. Donc on va voir ce qu'en pense la nouvelle commission.
La nouvelle commission est plus pragmatique.
Ouais, à suivre. Autre question au standard, toujours concernant ce référendum. Bonjour Florentin.
Bonjour, monsieur Rohan.
Vous nous appelez d'Abidjan, nous vous écoutons.
Oui, on constate depuis quelques jours un vent de panique dans le gouvernement britannique suite à ce sondage qui donne au coup d'accord le oui et le non au référendum d'indépendance de l'Écosse. Des hautes personnalités britanniques ont même fait lieu de déplacements comme David Cameron pour essayer de convaincre les indépendantistes. Alors, à ce sujet, j'ai une question. Pourquoi cette peur et quelles seraient les conséquences pour l'Angleterre si le oui l'emportait?
Alors, les conséquences pour l'Angleterre en cas de victoire du oui, déjà une perte de 10% du territoire, déjà vous avez dit ça tout à l'heure.
Oui, alors on va dire 10%
30% du territoire et 10% de la population.
Un peu moins de 10% de la population,
ça, voilà.
Mais aussi toutes les réserves, enfin l'essentiel des réserves de gaz et de pétrole quand même.
Le pétrole, hein, voilà. Ouais. Effectivement, ça c'est important, la manne est considérable. Je ne sais pas combien rapporte chaque année le pétrole à l'Angleterre, mais les conséquences seront donc d'abord économiques. Et puis aussi des conséquences politiques.
Alors il y a un véritable séisme politique qui s'énonce si le oui l'emporte, puisque David Cameron en fait a fait un pari il y a 2 ans en accordant aux Écossais le droit de se prononcer sur l'indépendance. À ce moment-là, il faut dire que les intentions de vote pour l'indépendance, pour les indépendantistes, étaient de 30%. Donc elles étaient vraiment très faibles. Ouais. Et l'idée de David Cameron, c'était de se débarrasser, au moins pour une génération, de ce problème des indépendantistes écossais qui avaient la majorité au Parlement, mais qui n'étaient pas majoritaires dans la population. Et en fait,
les indépendantistes ont très bien joué. Ça signifie quoi, Béatrice, que si le oui l'emporte, Cameron sera peut-être obligé de démissionner ?
Bah, il risque d'être balayé. Le parti conservateur, qui est déjà tiraillé par les eurosceptiques, risque d'exploser. Et très franchement, la crise politique qui s'annonce va être majeure pour les conservateurs. Mais il y a aussi, évidemment, des conséquences économiques avec la chute de la livre sterling, la City qui s'inquiète. On peut dire que tous les milieux économiques sont un peu inquiets, puisque l'incertitude, et on ne sait pas très bien ce qui va advenir après le oui, pèse beaucoup sur l'économie à la fois de la Grande-Bretagne et de l'Écosse.
À suivre, ce sera passionnant dans les 7 prochains jours. Le référendum est prévu donc, je vous le rappelle, le 18 septembre. Merci beaucoup Béatrice Léveillé. Merci Florentin d'écouter RFI à Abidjan où il est 8h21. 33 9 693 693 70, ce sont vos questions à la rédaction. Je vous le dis régulièrement, n'oubliez pas que certaines des réponses des journalistes d'RFI sont publiées en version écrite sur le site internet rfi.fr dans l'hebdo. Alors pour retrouver l'hebdo, vous cliquez sur le menu. Hein, dans le menu, vous allez voir, il y a hebdo. Et là, vous recherchez la chronique, la rubrique du côté de chez Juan. On me dit au casque que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon, que la ligne est bonne et que nous avons Omar qui nous appelle de Zinder, dans le sud-est du Niger. Bonjour Omar.
Bonjour Juan.
Voilà.
Bonjour les
espérons et croisons les doigts, espérons que la ligne tienne, puisqu'elle a coupé à plusieurs reprises ces dernières minutes hors antenne. Quelles sont vos questions, Omar ?
J'ai appris que la base de drones américaine allait se déplacer de Niamey à Agadez. Pourquoi ce déplacement ?
Alors, pourquoi ce déplacement ? Olivier Four, qui est le spécialiste des questions militaires à RFI, est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Et bonjour.
Alors effectivement, les États-Unis vont déplacer leur base de lancement de drones, qui se trouve en ce moment à Niamey, dans la capitale, à Agadez, dans le nord du pays. Il faut quand même préciser, Olivier, que ça fait déjà un peu plus d'un an et demi que les Américains sont présents au Niger.
On a une présence discrète qui a pris plusieurs formes. Souvenez-vous, en fait, fin 2012, début 2013, les Américains sont arrivés quand ils ont répondu à une demande de la France qui menait l'opération Serval et qui avait un grand besoin de moyens de renseignement. Donc, ils ont apporté une aide avec des drones. Et depuis, les Américains sont restés là. La structure de cette présence américaine a un peu évolué. Il y a eu d'abord des contractors américains, c'est-à-dire des sociétés de services privés dans le secteur de la défense, qui aidaient à la mise en œuvre de ces drones. Et puis, visiblement, même si tout cela est très discret, le Pentagone a ensuite déployé ses propres drones et ses équipes spécialisées dans le renseignement. Au début, il y avait 3 drones Reaper, et puis c'est monté en puissance petit à petit. On pense qu'il y en a à peu près aujourd'hui le double. Ça a doublé en début d'année avec l'arrivée notamment de drones Predator, qui sont un peu plus petits.
Ce sont des drones non armés. Hein.
Alors, ce sont des drones qui peuvent être armés, qui sont en capacité d'être armés.
Mais pour l'instant, c'est juste, ils font juste de l'observation.
Officiellement, et ils font que de la reconnaissance et du renseignement. Mais ce sont des drones qui, techniquement, ont la capacité d'être armés en réalité en quelques minutes.
Alors, pourquoi déplacer la base vers Agadez ?
Alors, d'abord, ce qu'on ne sait pas encore pour le moment, c'est si les Américains vont ouvrir une nouvelle base à Agadez et démonter celle de Niamey, ou si finalement, ils auront 2 bases, une à Niamey et une à Agadez. Alors, la première réponse, elle est géographique. Il suffit de regarder une carte, on voit bien qu'Agadez, c'est quand même plus proche de ce qui se dessine comme étant la future zone d'action de la lutte contre le terrorisme, qui est quand même toute cette zone grise du sud de la Libye. Donc on voit bien qu'à Agadez, on est plus proche de cette zone. Cette zone est considérée comme un sanctuaire djihadiste. Vous avez entendu les propos du ministre français Le Drian il y a quelques jours sur la question et son inquiétude autour de la situation dans le sud de la Libye. Donc,
un hub, a-t-il dit, où les groupes terroristes viennent s'approvisionner en armes.
Exactement. Donc si les Occidentaux veulent pouvoir intervenir dans la région, il faut qu'ils aient du renseignement, c'est la base de toute intervention. Donc, s'ils se rapprochent, si les Américains viennent à Agadez, ça leur permet de gagner du temps sur zone, ils sont plus proches de ces zones qu'ils souhaitent observer. Ils ont moins de chemin à parcourir pour survoler la zone d'intérêt, donc en fait, vous pouvez rester plus longtemps à tourner au-dessus de ce que vous voulez voir, ça s'appelle la persistance sur zone, c'est mieux. Et puis, Agadez, à l'heure actuelle, c'est quand même plus discret que Niamey. Vous savez qu'en fait, la base américaine et la base française de drones à Niamey, en fait, elle est située près de l'aéroport, donc en fait il y a quand même du monde qui passe, il y a des avions qui se posent, donc c'est assez facile d'avoir du renseignement. Et puis il y a la ville de Niamey qui est vraiment pas loin, donc ça fait peut-être des gens qui peuvent aussi observer ce qui se passe et obtenir du renseignement. Les Américains ont fait la même chose à Djibouti, ils sont partis de l'aéroport, ils étaient près de l'aéroport pour aller sur un terrain qui est un peu plus loin de l'aéroport.
Voilà. Reste avec nous encore Olivier. Omar, vous avez une dernière question ?
Oui, quel type de coopération existe-t-il entre l'armée française et l'armée américaine ?
Alors, la coopération, elle est bonne ou pas entre... entre les Américains et les Français pour lutter contre
le terrorisme. La coopération, depuis le début de l'année, on la considère comme réellement exemplaire.
Ah oui.
Le ministre français Le Drian s'est rendu à Washington. Il a longuement discuté avec son homologue Chuck Hagel. Il a fait un important discours au CSIS, le Centre d'études stratégiques internationales de Washington. C'est un des plus gros think tanks américains. Et visiblement, Washington et Paris ont convenu d'une coopération solide au Sahel. En réalité, les Américains ont été bluffés par l'opération Serval, par la réactivité de la France, sa capacité à bousculer les groupes djihadistes en utilisant finalement peu de moyens. Donc les Américains, eh bien, vont aider les Français dans cette zone du monde. Finalement, ils ne sont pas forcément contre un espèce de partage des eaux. C'est-à-dire que les Français qui connaissent bien la région s'occuperaient un peu de l'Afrique et les Américains un peu plus de la Corne et du monde arabe. Ça veut dire mettre à disposition des moyens de renseignement. On l'a vu, des drones, des ravitailleurs. C'est une des grosses difficultés des avions ravitailleurs de l'armée française et éventuellement aussi des moyens de transport stratégique, des avions cargo. On avait vu qu'au début de Serval, il avait fallu faire appel à des C-17 américains, canadiens et britanniques pour transporter le matériel.
Voilà. Merci Olivier Four d'être venu répondre à Omar Zinder. Vous nous écoutez sur place sur la FM, évidemment, au 96.2. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Le chef du service des sports des RFI. Nous allons déjà nous intéresser à la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouanet, bonjour à toute la population de Ouagadougou. C'est en Côte d'Ivoire là-bas.
Très bien, on vous écoute.
Oui, j'apprécie la zone du RFI que la Coupe d'Afrique a été annulée pour 2017 en Libye. Maintenant, il y a deux questions. Je voulais savoir quels sont les pays qui ont déjà posé leur candidature pour la CAN et sur quels critères s'est basé la CAN pour pouvoir accorder à ce pays.
Ouais, alors c'est vrai, Alejandro, que la Libye a déclaré forfait. C'est vrai que la situation politique, sécuritaire, n'est pas propice à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se bouscule au portillon ou pas pour remplacer la Libye?
Pas vraiment. Ah. Il y a quelques jours, on pensait que l'Algérie était le candidat idéal et qu'il allait l'emporter. Mais fin août, il y a eu le drame avec la mort du joueur camerounais Albert Ebossé, et qui a mis en lumière les défaillances en matière de sécurité dans les stades algériens. Mmh. Et du coup, la fédération algérienne a fini par ne plus être candidate. Donc, que reste-t-il? Alors, il y a le Ghana, qui a déjà organisé la CAN en 2008.
Qui a des atouts, donc, des structures hôtelières et sportives.
Bien entendu. Il y a le Mali, qui s'est manifesté récemment, malgré la situation parfois compliquée dans certaines régions. Et puis on a le Kenya, qui n'a jamais organisé la CAN et qui est candidat, qui pourrait éventuellement s'associer avec d'autres pays comme le Rwanda pour co-organiser ça. Il y a un duo, Tanzanie-Ouganda également, qui s'est manifesté. Et puis il y a l'Éthiopie, qui a déjà accueilli 3 fois la compétition, mais qui n'a pas organisé la CAN depuis 1976 et qui peut paraître le pays le mieux placé aujourd'hui.
Il ouais, y a du monde quand même.
Oui, mais il faut comprendre que les calendriers peuvent encore changer les choses, car les pays qui sont intéressés doivent se manifester avant la fin du mois de septembre. Mmh. Or, avant, le 20 septembre, on connaîtra les pays qui vont accueillir la CAN 2019 et la CAN 2021. Et là, il y a d'autres candidats. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a la Guinée, il y a aussi l'Algérie et puis la Zambie. Alors, si certains de ces pays ne sont pas retenus pour 2019 ou 2021, peut-être pourraient-ils être tentés par déposer un dossier pour 2017.
Ouais. Donc, le suspense est entier, Alejandro Valente, si je comprends bien, les critères de la Confédération africaine pour accorder la compétition à un pays.
Il y a un critère essentiel, là, aujourd'hui, vu que l'annonce sera faite début 2015, il n'y aura que 2 ans pour préparer ça, il faudra que les infrastructures soient à peu près prête et on ne pourra pas imaginer un pays qui va organiser ça depuis zéro. C'est pas possible. Donc, les critères principaux, ce sera d'être en mesure d'offrir une organisation rapide et simple et sûre, évidemment, pour la CAF.
Merci beaucoup, Alejandro Valente. C'était le chef du service des sports des RFI. À bientôt.
À bientôt.
Alejandro, il est bientôt 10h30 à Paris. On va marquer une pause. On va retrouver la rédaction pour le dernier journal d'Afrique Matin et on sera de retour tout de suite après avec vos réactions et vos témoignages sur l'épidémie d'Ebola. Quelle stratégie faut-il mettre en place aujourd'hui, d'autant que le bilan ne cesse de s'alourdir de semaine en semaine.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.